VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h temps universel, dans 5 minutes, l'Amérique et vous avec John Lyndon. Mais tout d'abord, les nouvelles. Au Congo-Brazzaville, des milliers d'habitants du sud de la capitale ont fui leur quartier aujourd'hui après plusieurs heures d'échanges de tirs et de canonnades provoquées selon le gouvernement congolais par une attaque menée par un nombre indéterminé d'hommes armés contre des bâtiments publics. La réaction de Thierry Mungala, porte-parole du gouvernement de la République du Congo, au micro d'Idriss Fall.
Aux alentours de 3 heures du matin, dans la nuit de dimanche à lundi, les assaillants armés ont attaqué un quartier de la partie sud de Brazzaville qui s'appelle Mayanga et ont pris d'assaut un certain nombre d'édifices publics et symboles de l'État comme un point de commandement militaire, des commissariats et puis la mairie d'arrondissement de Makelele. Et puis à partir de ce moment-là, la force publique, c'est-à-dire l'armée, la police et la gendarmerie, ont répliqué et ont ramené l'ordre. Et au moment où nous parlons, nous pouvons considérer que la tranquillité est revenue sur Brazzaville totalement depuis la fin de matinée.
Est-ce qu'on sait qui sont les assaillants ?
Il s'agit manifestement, parce qu'ils ne s'en sont pas cachés, d'ex-miliciens ninja Tsilulu.
Est-ce qu'ils se sont perdus dans la nature ? Est-ce qu'on les a abattus ou on les a arrêtés ?
Et les opérations ont continué une bonne partie de la journée. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au moment où nous parlons, il n'y a pas encore de la part des services compétents ni de bilan en termes humains, ni en termes matériels, ni en termes d'investigation et d'éventuelles interpellations. Il est prématuré de s'avancer sur ce sujet.
Thierry Mungala, porte-parole du gouvernement congolais à Brazzaville. Au Tchad, poursuite de la vague d'arrestation de responsables de la société civile, après les 4 leaders incarcérés depuis 2 semaines, un 5e vient d'être interpellé ce lundi par la police judiciaire, à savoir le docteur Albi Sati Saleh Alazam, un porte-parole de la coalition Ça suffit. Ça suffit et la coalition Trop c'est trop ont dénoncé aujourd'hui cette campagne contre la société civile et affirment maintenir la marche pacifique de demain, mardi 5 avril. On écoute Bertrand Solo Nganjei, un des porte-paroles de Ça suffit.
Eu égard à la situation sociopolitique actuelle du Tchad, la coalition Ça suffit informe l'opinion nationale et internationale que l'un de ses porte-parole en la personne du docteur Albi Sati Saleh Alazam a été convoqué ce matin à 8h à la police judiciaire. Cet état de fait confirme la volonté du gouvernement de mettre terme aux valeurs démocratiques au Tchad. La coalition Ça suffit est indignée par cette attitude tendant à museler la population dans ses aspirations légitimes. Nous demandons la libération sans condition de nos porte-paroles, désormais passés de 4 à 5, nous informons la population que la marche pacifique dite pour l'alternance démocratique des libertés d'expression et des droits de l'homme prévue demain 5 avril 2016 est maintenue. Nous réaffirmons le caractère pacifique de la marche.
Bertrand Solo, porte-parole de la coalition Ça suffit au Tchad.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Maintenant, les secrets des paradis fiscaux révélés par le Consortium international des journalistes d'investigation dans l'affaire des Panama Papers. De nombreuses personnalités du monde entier sont concernées, mais pour l'Afrique, ce sont surtout des proches de présidents qui sont cités dans ce scandale des évasions fiscales. Nathalie Barge.
Si aucun chef d'État africain en exercice n'est personnellement cité dans l'enquête, des proches de dirigeants le sont, notamment un neveu du président sud-africain Jacob Zuma, Alaa Moubarak, fils aîné de l'ancien président égyptien, Jonado Koufouer, celui de l'ancien président ghanéen John Koufouer et le banquier ivoirien Jean-Claude Nda Amechi. Parmi les responsables politiques africains mentionnés figurent, entre autres, Jeannette Désirée Kabila Kiyungu, députée et sœur du président de la RDC, Joseph Kabila, Bruno Jean-Richard Itois, ministre de la Recherche scientifique du Congo-Brazzaville, le général Emmanuel Ndahiro, ancien directeur de l'agence rwandaise du renseignement et le fils du président congolais Denis Sassou Nguesso, Denis Christelle Sassou Nguesso, député et directeur général adjoint de la Société nationale des pétroles du Congo. Contacté par le journal Le Monde, ce dernier a dit ne pas connaître le cabinet panaméen Mossack Fonseca, mis en cause dans ses révélations sur l'évasion fiscale au plan planétaire.
Et pour terminer, Sénégal, 2 détenus libyens de la prison américaine de Guantanamo à Cuba ont été transférés au Sénégal. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le Pentagone. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir à tous. Merci de nous retrouver pour cette autre édition de l'Amérique et vous sur VO Afrique. Nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis. Au micro de présentation, John Lyndon, Georges Léonard Sagno est à la mise en onde. Installez-vous confortablement et on se retrouve juste après. Le sujet fait actuellement débat ici aux États-Unis et il semble être le même dans beaucoup de pays. En fait, 5 championnes du monde américaines, membres de l'équipe nationale de football, attaquent leur pays devant la justice sociale, ou plutôt la justice civile, pour discrimination salariale. Elles dénoncent l'écart des traitements avec leurs collègues hommes. Nous avons prouvé ce que nous valions au fil des années, a commenté Carly Yole, milieu de terrain et élue meilleure joueuse de la Coupe du Monde 2015. Nous sortons d'une victoire en Coupe du Monde et l'écart salarial entre hommes et femmes est simplement trop important. Il faut dire en effet qu'en cette édition de la Coupe du Monde, l'équipe féminine américaine l'a emporté 3 fois en 1991, 1999 et 2015 et n'a jamais fini au-delà de la 3e place. Elle reste également sur 3 victoires d'affilée aux Jeux olympiques et sur 4 titres en 5 compétitions depuis 1996. Selon le New York Times, les joueuses de l'équipe nationale perçoivent un salaire de base annuel de 72 000 $ assorti de primes de match qui n'excèdent cependant pas 1 350 $. Les joueurs de l'équipe masculine, eux, ne reçoivent pas de salaire de base, mais touchent au minimum 5 000 $ par match amical et jusqu'à 17 625 $ en cas de succès contre une équipe de premier plan. Alors, que pensez-vous de cette plainte des joueuses de l'équipe de football féminine américaine? Et qu'est-ce qui, à votre avis, justifie cette inégalité salariale entre hommes et femmes dans le football aussi bien ici aux États-Unis qu'ailleurs dans le monde et en Afrique notamment? Nous vous donnons la parole dans l'Amérique et vous. Faites-nous part de vos réactions sur Facebook ou en direct au 001 202 619 31 40. Vous écoutez l'Amérique et vous sur VO Afrique et pour nous accompagner au cours de cette émission ce soir, nous avons Rachel Kessing, journaliste et directrice d'antenne de Stade Afrique, une chaîne de télévision basée à Paris et spécialisée dans le sport. Rachel, bonsoir.
Pardon, Lyndon.
Merci pour votre fidélité. Dites-nous déjà un petit mot sur Stade Africa, qu'est-ce que c'est?
En fait, Stade Afrique, c'est la première chaîne des sports d'Afrique. Comme son nom l'indique, c'est une chaîne qui est une plateforme pour traiter de tout ce qui concerne le sport africain. C'est une chaîne qui se veut vraiment la vitrine de nos athlètes qui sont sous-représentés dans les médias internationaux.
Voilà, merci. Et c'est ce qui vous vaut l'invitation à cette émission. Restez avec nous. On vous retrouve dans un instant. Également invitée dans cette émission, Juliette Deslandes. Elle est joueuse de football évoluant dans l'EF16, une équipe parisienne. Juliette, bonsoir.
Bonsoir à vous.
Alors, soyez la bienvenue sur VOA Afrique. On va vous retrouver dans un instant. Nous devrions également avoir dans cette émission Aminata Sako. Elle est capitaine de l'équipe de football féminine du Mali. Est-ce que Aminata est en ligne? Elle n'est pas en ligne. On a plutôt Omar Ginto. Il est l'entraîneur de l'équipe nationale féminine du Mali. Omar, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Voilà, on aurait pu avoir soit vous, soit la capitaine, mais puisque vous êtes là, soyez les bienvenus.
Oui.
On va vous retrouver dans un instant. Nous aurons également Eugène Péoa Pelema. Il est directeur de Africa Education Sport. Eugène, bonsoir.
Oui, bonsoir. Merci de m'avoir avec vous.
Voilà. Donc, on va commencer par vous, Eugène. Comment est-ce que cette nouvelle a été accueillie ici aux États-Unis, puisqu'elle a commencé ici? Comment l'opinion accueille cette nouvelle, ces joueuses qui portent plainte à l'État pour discrimination salariale?
Vous savez qu'ici aux États-Unis, c'est très sensible. Tout ce qui touche aux femmes, les gens, ils sont très sensibles. Je crois qu'il y a un travail qui est fait à tous les niveaux, pas seulement le sport, mais à tous les niveaux, pour que les femmes puissent gagner le même salaire que les hommes pour le même travail qui est fait. Maintenant, le sport, c'est totalement différent, mais je pense qu'on en parlera plus tard. De toutes les manières, les gens sont très sensibles à ça, parce que quand même, il faut reconnaître qu'aux États-Unis, il y a à peu près 50 à 51% de femmes, et qu'elles ont un impact direct dans tout ce qui se passe dans le pays.
Alors, Rachel Kessing, comment vous avez accueilli cette nouvelle des joueuses qui se lèvent et qui portent plainte?
Déjà, c'est assez inédit hein, pour le souligner. Je pense que les joueuses ont simplement voulu exprimer un peu un ras-le-bol d'être moins payées que les hommes. Et en fait, je pense qu'elles ont décidé bien d'employer les grands moyens pour se faire entendre. Et voilà, mais c'est vrai que la discrimination salariale dans le monde du sport et notamment du football est très très marquée. Je pense que la suite de l'affaire sera intéressante à suivre.
Voilà, intéressante à suivre. Juliette, vous avez joué au football et vous me disiez avant cette émission que votre coach a joué ici aux États-Unis et qu'à son époque, elles étaient moins bien payées qu'aujourd'hui. Elle est en France aujourd'hui. Est-ce que là-bas les choses sont différentes?
Non, les choses sont pas différentes. À savoir que bon, les filles sont évidemment moins bien payées que les hommes. En France, en plus, les filles n'attirent pas autant les foules qu'aux États-Unis. C'est-à-dire que bon, les garçons remplissent les stades pour ce qui est de l'équipe de France. Les filles, pas encore. Pourtant, l'équipe de France féminine de football aujourd'hui a quand même un bon niveau, mais elles n'ont pas gagné tous les titres que les Américaines ont gagnés. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, bon, cette plainte est peut-être un peu plus légitime parce que le football masculin aux États-Unis, en plus, n'est pas quand même hyper populaire et les garçons sont plus populaires pour le football américain. Donc je pense que leur plainte est totalement légitime. Et en France, aujourd'hui, en tout cas, c'est exactement le même problème. Les filles sont beaucoup, beaucoup moins bien payées que les hommes.
Voilà, on va aller au Mali. Aminata Sako nous a rejoint. Elle est capitaine de l'équipe de football féminine du Mali. Aminata, bonsoir. Oui. Voilà, merci. Hein. On sait que vous êtes très prise en ce moment. Vous devez revenir des entraînements. Au Mali, comment ça se passe avec les salaires entre vous de l'équipe nationale féminine et les hommes? Est-ce que c'est le même?
Non, c'est pas le même.
Et c'est comment ça... Vraiment... Voilà, non. Allez-y.
Les hommes, ils ont mieux payé que nous, les femmes.
Alors, qu'est-ce qui explique cela?
Bon, je ne sais pas ce qui explique cela. Même maintenant, on a joué contre le Maroc. Même là où nous sommes, on n'a pas eu notre prime, quoi.
Voilà. Donc, Aminata, vous allez rester avec nous. Eugène, est-ce que vous avez le sentiment que la plainte des joueuses américaines va aboutir?
Bon, ça, je ne sais pas. Et je ne suis pas sûr. Peut-être qu'il y aura des améliorations, mais si je peux donner une petite explication. Mm-hmm. Le sport, aujourd'hui, est un business. Et qui dit business, c'est un marché. Et le sport marche à travers les publicités, donc le salaire.
Voilà, on a quelques soucis avec Eugène. Je vais repartir vers Rachel Kessing. Vous êtes dans une chaîne de télévision. Est-ce que les médias ont un rôle quelconque dans ce qui arrive dans cette inégalité de salaire entre hommes et femmes, dans le football féminin notamment?
Alors, peut-être pas directement, puisque les médias ne sont là que pour accompagner. Mais effectivement, les médias ont un grand rôle à jouer dans la médiatisation, justement, de ce sport et la mise en avant des athlètes, des professionnels qui le pratiquent. D'ailleurs, c'est pour ça que la responsabilité des chaînes, notamment la thématique sportive, est grande, parce que tout à l'heure, un intervenant le disait, aujourd'hui, le football, c'est du business. Et le business fonctionne, justement, avec les médias. C'est-à-dire que plus les annonceurs, plus les sponsors sont assurés d'avoir une visibilité, plus les sommes proposées sont grosses. Alors peut-être que après, enfin, je veux dire, dans ce type de transaction, on peut aboutir justement à une hausse ou tout au moins à un équilibre des salaires entre